bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien et ça ne signifie rien.
Objection Votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent avec Tania Rachaud. Dans ce podcast, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe. Cette émission est réalisée par Léo Bardot à Rome.
L'Europe, l'Europe, l'Europe.
Objection Votre Europe revient avec une série spéciale Green Deal, présentée par les étudiantes et les étudiants de l'université Paris-Saclay. Le pacte vert européen, discuté au sein de l'Union européenne depuis 2019, explore de nombreux sujets liés à l'environnement, et donc on a pensé qu'il serait intéressant de décrypter ces enjeux et les objectifs du Green Deal. Dans cet épisode, les étudiantes Lucille Rouef, Stissi Fripong, Amara Ndiaye et Stella Bofal vont vous parler des questions de lobbying en lien avec le Green Deal.
L'Europe, l'Europe, l'Europe.
Même si vous le connaissez sans doute toutes et tous, il est important de réexpliquer brièvement ce qu'est le Green Deal ainsi que les objectifs qu'il fixe. Le Green Deal, ou Pacte vert européen, a été adopté en 2019 par la Commission européenne. Il vise à garantir une neutralité climatique pour l'Union d'ici 2050. Il comporte pour cela un ensemble de politiques devant être accomplies par les États membres, permettant d'atteindre cet objectif à l'horizon 2050. La Commission européenne, à ce sujet, a été claire. Toutes les actions et politiques de l'UE devront contribuer à atteindre les objectifs du Pacte vert pour l'Europe. Toutefois, le problème dont nous parlerons ici n'est pas celui du Green Deal en lui-même, mais plutôt celui du lobbying qui entoure son adoption. En effet, le Green Deal est sous le feu de nombreuses critiques, notamment du fait de l'intervention d'associations et d'acteurs privés auprès de députés européens et de gouvernements d'États membres. On critique ainsi le lobbying qui aurait entouré l'adoption du pacte, une activité qui consiste à prendre l'initiative d'entrer en contact avec des personnes chargées d'élaborer et de voter les décisions publiques ou de conduire l'action publique nationale ou locale pour influencer leurs décisions. C'est la définition de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Dans le cadre du Green Deal, l'intervention d'ONG environnementalistes auprès d'eurodéputés et de gouvernements peut relever de cette définition du lobbying. Ici, ce qui dérange, ce n'est pas nécessairement l'intervention d'ONG, mais c'est surtout le fait que ces ONG aient été mandatées par la Commission pour faire pression sur les États et que des fonds publics aient été utilisés pour promouvoir le Green Deal. La Commission est ainsi sous le feu d'accusations, notamment de détournement de fonds publics, en plus des actes de lobbying qui lui sont reprochés. Pourtant, ce n'est pas la première fois que la Commission a recours au lobbying pour faire la promotion de certains de ses projets. L'Union européenne reconnaît explicitement avoir recours au lobbying. Sur le site internet du Parlement européen, en effet, on peut lire que les institutions de l'Union interagissent avec tout un ensemble de groupes et d'organisations représentant des intérêts spécifiques et menant des activités de lobbying. Il s'agit là d'une composante légitime et indispensable du processus décisionnel. Les politiques de l'Union doivent ainsi correspondre aux véritables attentes des citoyens. La Commission ne s'en cache donc pas. Il existe des relations entre les institutions de l'Union et des groupes de pression. Ce qui change toutefois, par rapport aux situations passées, c'est le fait que la Commission ait fait cela d'ombre, dans la discussion la plus totale vis-à-vis des députés et vis-à-vis des États. Certains parlent même d'un lobbying fantôme pour qualifier les actes auxquels a pu se livrer la Commission. En tout cas, maintenant que l'on sait ce qu'est le lobbying et ce qu'en pense la Commission, il est important de savoir ce qu'il en a réellement été au sujet du Green Deal. Le Green Deal européen, vaste programme visant à faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone d'ici 2050, a suscité d'intenses débats sur les influences qui ont pesé sur son adoption. En particulier, une polémique récente met en cause un prétendu lobbying de l'ombre orchestré par la Commission européenne via le financement d'ONG environnementales. Stella, les accusations reflètent-elles une réalité ou une instrumentalisation politique ?
D'après une enquête du Point publiée en 2025, qui revient sur ce scandale ayant éclaté après la saisine de la procureure européenne en chef par l'eurodéputé Jean-Paul Garot, des députés conservateurs et d'extrême droite accusent la Commission européenne d'avoir financé des ONG écologistes afin qu'elles influencent le Parlement européen en faveur du Green Deal. Selon le JDD en 2025, cette affaire relance les critiques sur le rôle du lobbying dans les institutions européennes. Selon le Point, en effet, ces accusations reposent sur l'analyse de contrats entre la Commission et des ONG, notamment le Bureau européen de l'environnement, qui a reçu une subvention à hauteur de 700 000 euros pour influencer le débat agricole vers des mesures plus écologiques. Certains députés comme Dirk Gauthin ou encore Monica Holmer, du Parti populaire européen, affirment que ces contrats contiennent des instructions pour, je cite, « manipuler le pouvoir législatif ». Ils y voient une atteinte au rôle impartial de la Commission qui devrait servir l'intérêt général européen et non défendre ses propres intérêts. Toutefois, l'examen approfondi de 28 contrats par Politico dément ces accusations et nuance ces affirmations. Aucune des clauses ne prouve que la Commission a donné des consignes directes aux ONG pour faire du lobbying en son nom. Si le financement existe, il s'inscrit dans le cadre de programmes comme LIFE, qui soutiennent des initiatives écologiques portées par des ONG, des entreprises ou encore des collectivités locales. Les appels à projets sont publics et ne conditionnent pas l'obtention des subventions à une pression politique ciblée sur les eurodéputés.
Est-ce qu'on peut donc qualifier les actes de la Commission de pression sur les députés à proprement parler ?
Alors, cette affaire illustre la complexité du rôle du lobbying dans l'Union européenne. Si le financement d'ONG peut légitimement poser des questions sur leur influence, aucune preuve formelle ne démontre que la Commission a orchestré une campagne de pression en faveur du Green Deal. Ce débat révèle surtout une bataille idéologique entre les partisans et les opposants des politiques environnementales européennes, où la question de la transparence institutionnelle demeure centrale.
Nous comprenons donc que les actes de lobbying de la Commission ont bien existé. Mais en ce qui concerne le droit, quelle est réellement la position juridique sur le lobbying de la Commission ? Stacy, comment se positionne le droit face au lobbying au sein des institutions européennes ?
Le lobbying au sein des institutions européennes est réglementé par un registre de transparence mis en place en 2011 et rendu obligatoire en 2014 pour rencontrer des hauts fonctionnaires de la Commission. Toutefois, ce registre reste lacunaire. Les employés de niveau inférieur qui rédigent pourtant les textes législatifs peuvent être approchés sans contrainte et le rôle des déclarations financières des lobbyistes est limité. Il n'existe pas de sanctions dissuasives pour ceux qui sous-déclarent leurs dépenses de lobbying, si ce n'est une exclusion du registre, mesure rarement appliquée.
Doit-on en déduire que le Green Deal ne va pas sans lobbying ?
Le lobbying autour du Green Deal n'est pas une exception. La plupart des grandes politiques européennes, qu'il s'agisse de la régulation bancaire, des normes industrielles ou de la politique agricole commune, la PAC, sont influencées par divers acteurs. Ce qui distingue le Green Deal, cependant, c'est l'opposition marquée qu'il suscite. Contrairement à d'autres initiatives qui voient généralement des entreprises et des fédérations sectorielles négocier des ajustements techniques, le Green Deal a fait l'objet d'un affrontement idéologique intense entre groupes environnementaux et industrie polluante. Un parallèle intéressant peut être fait avec la directive REACH, adoptée en 2006, qui réglemente l'utilisation des substances chimiques en Europe. À l'époque, l'industrie chimique, représentée par des groupes comme le CEFIC, Conseil européen de l'industrie chimique, avait mené une intense campagne de lobbying pour assouplir les obligations imposées aux entreprises. De leur côté, les ONG environnementales avaient plaidé pour un cadre strict afin de protéger la santé publique et l'environnement. Finalement, la directive a été adoptée avec des compromis illustrant un processus classique où les différents lobbies tentent de peser sur l'orientation des politiques européennes. Dans le cas du Green Deal, le rapport de force est similaire, mais amplifié par l'urgence climatique et les résistances économiques. Les ONG environnementales, bien que particulièrement actives sur le dossier, ne disposent pas de moyens équivalents à ceux des industries pétrolières, agricoles ou automobiles, qui figurent parmi les plus puissants lobbies de Bruxelles. Cela amène certains à considérer que la Commission aurait cherché à rééquilibrer les influences en finançant certaines ONG, ce qui alimente les controverses actuelles.
Justement, ce rééquilibrage des influences dont tu parles, veut-il dire que l'efficacité du lobbying est automatiquement visible au sein d'une politique et qu'elle le sera en l'occurrence pour le Green Deal ?
Malgré l'intensité du lobbying, les résultats du Green Deal sont contrastés. Si certaines mesures comme l'interdiction des voitures thermiques en 2035 ont été adoptées, d'autres ont été édulcorées sous la pression des lobbies industriels. Un cas emblématique est celui des réglementations sur les pesticides. Initialement, la Commission proposait une réduction de 50% de leur utilisation d'ici 2030. Cependant, sous la pression du secteur agro-industriel et de certains États membres, cette mesure a été revue à la baisse, illustrant l'impact du lobbying économique sur les décisions finales. Par ailleurs, l'évolution du Parlement européen a joué un rôle clé. Après les élections de 2024, la nouvelle composition plus conservatrice a conduit à un ralentissement des ambitions environnementales. Ainsi, même avec un lobbying pro-environnemental actif, les équilibres politiques restent déterminants dans l'issue des négociations européennes.
Je suppose que cela implique, comme dans toute politique, des avis divergents, donc des acteurs différents.
Oui. Différents acteurs sont en effet impliqués dans le lobbying relatif au Green Deal. On a des entreprises et leurs fédérations avec des groupes comme Renault, Total Energy ou la Fédération européenne des industries chimiques qui cherchent à atténuer les réglementations environnementales. Les ONG environnementales telles que Greenpeace, WWF et Transport Environment défendent des normes plus strictes. Les cabinets de conseil en lobbying comme des firmes telles que Fleischmann Hillard ou Euralia aident leurs clients à naviguer dans les institutions européennes. Les think tanks et institutions académiques, pour certaines, sont financées en partie par des industriels et participent au débat en influençant les décideurs.
En conclusion, selon toi, pourrait-on parler d'une influence ou d'une ingérence dans la mise en œuvre du Green Deal ?
Les accusations d'ingérence de la Commission à travers le financement d'ONG doivent être placées dans un contexte plus large. Loin d'être un simple soutien désintéressé, ce financement vise aussi à rééquilibrer un rapport de force dominé par des industries aux moyens considérables. Toutefois, cette approche soulève des questions sur la neutralité des institutions européennes et leur capacité à réguler efficacement le lobbying. Donc si l'UE impose certaines règles de transparence, celles-ci restent insuffisantes pour garantir un équilibre parfait entre les deux acteurs. Donc ce débat révèle une réalité structurelle du fonctionnement bruxellois. Lobbying est une pratique institutionnalisée et son influence sur la politique européenne, qu'elle soit exercée par des entreprises ou des ONG, reste un enjeu central pour la gouvernance démocratique de l'Union.
Merci pour toutes ces réponses, Tessie. On comprend donc les enjeux derrière le lobbying de la Commission. Toutefois, une question se pose. Lucille, ce lobbying a-t-il été, en pratique, efficace ?
Le pacte vert a bien été adopté par le Parlement européen le 15 janvier 2020 et ainsi, des mesures novatrices en matière d'écologie ont pu entrer en vigueur. Le lobbying a certainement dû jouer, au moins en partie, en faveur de cette adoption. Mais il reste qu'aujourd'hui, le bilan est mitigé. Certains textes du Green Deal ont été vidés de leur substance et des avancées sur l'alimentation et l'agriculture ont été abandonnées. Aucun texte législatif n'a pu être voté sur la question des pratiques agricoles moins polluantes et la réduction importante des pesticides. La Commission européenne et sa présidente, Ursula von der Leyen, ne semblent plus aussi motivées par le Green Deal car plusieurs initiatives de la Commission en matière d'environnement ont été abandonnées. Si le lobbying a pu être efficace un temps, il semble dorénavant se heurter à des changements politiques et les lobbies, pour y faire face, changent de stratégie. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds whispered. Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, run, run.
D'écouter Talking About a Revolution de Tracy Chapman. Nous sommes donc de retour sur le podcast Objection Votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent, avec Tania Rachaud. Nous avons compris dans une première partie les enjeux et la pratique derrière le lobbying auquel a eu recours la Commission. Toutefois, la question qui se pose désormais est celle de son impact et de son efficacité réelle dans la prise de mesures écologiques. Malgré la gravité des accusations dont il est question, en effet, il faut dire que le lobbying a eu un impact limité, si ce n'est dérisoire, sur l'adoption et l'exécution du Green Deal. 5 ans après son adoption, le Green Deal patine, entre tensions multiples générées chez les agriculteurs et contestations politiques de toutes parts. L'impact du lobbying pour la promotion du pacte est donc à limiter, au vu du niveau de contestation dont il fait l'objet. Il faut toutefois souligner, pour justifier le recours à de telles pratiques que le pacte vert européen a été adopté par 482 voix pour au Parlement et qu'il est toujours en vigueur à l'heure où ce podcast est enregistré. Ainsi, malgré une fragilité qui n'est plus à démontrer, le Green Deal continue toujours d'être mis en œuvre par les États, et c'est potentiellement grâce à sa promotion par des ONG écologistes. Efficace ou non en tout cas, le lobbying fait l'objet d'un changement de stratégie, comme l'expliquait Lucille, du fait du recul constant des mesures prises dans le cadre du Green Deal.
Le Green Deal subit ainsi un contre-coup qui est aussi électoral. Les dernières élections européennes de juin 2024 entérinent en effet ce retournement de situation. C'est la droite conservatrice du Parti Populaire Européen, le PPE, qui sort vainqueur de celle-ci, mais dans un Parlement divisé qui a vu une montée des partis d'extrême droite, alors que les écologistes ont subi un important recul. Le vent a définitivement tourné contre le Green Deal au sein du Parlement européen. Le discours d'extrême droite extrêmement virulent à l'égard des normes environnementales influence les positions du PPE, qui, pour voter ces textes, recherche le soutien de l'extrême droite. On retrouve ainsi dans les grandes orientations du programme de la Commission européenne de 2024 à 2029, 23 mentions de la compétitivité, contre 2 seulement de l'environnement. C'était pourtant à l'initiative de la Commission et de sa présidente, Ursula von der Leyen, qu'en 2019, le projet du pacte vert avait été lancé. Ce changement de paradigme a été pris en compte par les lobbies de l'environnement. Conscients de la nouvelle tendance politique, les lobbies s'adaptent et font entrer la compétitivité au cœur de leur campagne. Un changement de tactique qu'ils assument ouvertement. Les lobbies Zero Waste Europe et ECOS l'affirment. Pour vendre l'écologie circulaire, ils fonderont leurs arguments sur l'autonomie européenne, la sécurité et la compétitivité. Le réseau d'entreprises Corporate Leaders Groups, qui forme de grandes entreprises à l'adaptation et la résilience au changement climatique, assume asseoir directement sa stratégie sur l'opportunité économique. Les lobbyistes l'assurent, cette nouvelle stratégie ne change rien au fond de leur combat. Adeline Rocher, chargée de mission au sein de Corporate Leaders Group Europe, l'a rapporté au Média Context. Nos recommandations sont les mêmes, ce qui change, c'est la manière dont c'est formulé, en partant de ce qui domine le débat public, déclare-t-elle. Ce qui dominerait dans le débat public, c'est la compétitivité. C'est au nom de celle-ci que les ONG vont déployer leurs forces pour protéger les normes environnementales déjà adoptées dans le cadre du Green Deal et qui attendent encore d'être appliquées. On retrouve notamment parmi celles-ci la directive sur la fin des véhicules thermiques neufs d'ici 2025 et celle sur les normes minimales dans la rénovation énergétique des logements. Des mesures extrêmement critiquées par la droite et l'extrême droite durant la campagne des dernières élections européennes qui souhaitent les voir abrogées. Pourtant, pour porter leurs revendications, les lobbies écologiques n'hésitent pas à partir à la recherche d'alliés surprenants, parfois même à l'extrême droite du champ politique. C'est d'abord auprès du PPE, ancien promoteur du Green Deal, que les ONG recherchent des alliés politiques en premier lieu. Mais il travaille aussi avec de nombreux acteurs économiques, en particulier avec les industries et les lobbies, de la pêche, notamment les entreprises de technologies de dépollution. Cependant, pour certaines ONG, ces alliances de fortune et d'intérêt pourraient s'étendre jusqu'à l'extrême droite. Nicolas Fournier, directeur de campagne chez l'ONG Océana, l'envisage, toujours pour contexte. On défend une approche pragmatique en bâtissant des majorités plus diverses qu'au précédent mandat, dossier par dossier. On espère y arriver avec le PPE et potentiellement avec des députés patriotes selon les sujets, déclare-t-il. Inclure l'extrême droite entre donc dans le champ des possibles. S'interdire de leur parler, c'est se tirer une balle dans le pied, poursuit Nicolas Fournier. Le Rassemblement National défend la petite pêche, ça peut être un point d'entrée qui résonne avec eux. Tant aux dernières élections, l'extrême droite n'a pas mâché ses mots pour attaquer le Green Deal. Elle a même mené une campagne cristallisée en partie sur l'opposition à celui-ci, qui représenterait l'une des plus grandes menaces qui pèsent aujourd'hui contre la France, comme le déclarait Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement National. Une potentielle connivence entre les lobbies écologiques et l'extrême droite paraît donc peu crédible en l'état des faits, même si elle devait aboutir, il est légitime de se demander à quel prix. Il ne resterait sans doute plus grand-chose d'écologique dans le Green Deal. Ce rebranding stratégique des lobbies tente à démontrer que l'écologie et la lutte contre le réchauffement climatique sont finalement pour certaines entreprises un business comme un autre, dans lequel elles peuvent tirer profit. La compatibilité de la pratique du lobbying avec des sujets d'intérêt commun et dans un contexte d'urgence climatique pose question. Alors que le Green Deal se détériore et que les lobbies tentent d'en préserver des miettes, quitte à s'allier avec ses plus grands détracteurs, une question se pose. Cette écologie compétitive est-elle encore véritablement écologique ?
Merci Stacy pour cet échange.
Merci.
Merci Lucille.
Merci.
Merci Stella.
Merci et merci à toi aussi Amara.
À bientôt sur le podcast Objection Votre Europe.
Merci de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe spéciale Green Deal par les étudiantes Lucille Rouef, Stacy Fripong, Amara Ndiaye et Stella Beaufalé du Master Droit Européen de Paris-Saclay. C'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur le site d'Amicus Radio, celui des surligneurs et toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant de nos actualités.